Chapitre 2. Le lendemain, il se réveilla maussade et abattu. « Eh bien, lui dit son père en aspirant avec bruit chaque cuillerée d'une écuelle de soupe, « eh bien, t'es-tu abusé hier, mon garçon ?» Il répondit brièvement et avec répugnance. Tout lui soulevait le cœur. La robe d'indienne de sa tante lui donnait une sorte de rage. Le père faisait des questions minutieuses. Il aurait eu plaisir à refaire, tout en mangeant son potage, la promenade de son fils. Il avait vu Saint-Cloud du temps qu'il était militaire, mais il n'y était jamais retourné depuis. Il avait une idée. Ils iraient tous trois à Versailles. Sa sœur aurait soin de faire cuire la veille un morceau de veau qu'on pût emporter. Il visiterait le musée, mangerait sur le tapis vert et prendrait beaucoup de plaisir. Jean, à qui ses projets faisaient horreur, ouvrit ses cahiers, mit la tête dans ses livres pour se dispenser d'entendre davantage et de répondre. Il se mettait d'ordinaire plus lentement à l'ouvrage. Son père lui en fit la remarque en le louant de son zèle. « Il faut, dit-il, s'amuser quand c'est l'heure de l'amusement et travailler quand c'est l'heure du travail. » Et il se mit à laminer sa peau de chagrin. Jean rêva. Il avait entrevu tout un monde qu'il savait à jamais fermé pour lui et vers lequel toutes les forces de sa jeune nature l'entraînaient irrésistiblement. Il n'imaginait pas que Madame Evans pût être jamais différente de ce qu'il avait vu. Il ne se la figura ni autrement vêtue, ni autrement environnée. Il ne savait rien des femmes. Celle-là lui était apparue toute maternelle, et c'était une mère comme Madame Evans qu'il eût voulu avoir. Mais avec quel battement de cœur et quelle chaleur au front il évoquait cette mère chimérique. À compter de la journée de Saint-Cloud, Jean se crut malheureux et il le devint en effet. Il s'efforça d'être insoumis. Il était fier de rompre la discipline et de mépriser les châtiments. Il suivait avec ses camarades de pension les classes d'un lycée du quartier latin. Dès qu'il avait appris sa place sur le plus haut des gradins de la salle bien chauffée, il lisait quelques romans sentimentaux, dissimulés sous des piles d'auteurs latins et grecs. Parfois, le professeur découvrait, malgré sa myopie, le livre clandestin. Jean avait ses heures d'éclat. Mais ses versions étaient remarquables, sinon par l'exactitude, du moins par l'élégance. De même, il n'était pas sans exemple qu'on releva dans ses thèmes des tournures heureuses. Il fit sur ce sujet la Vierge Théano défendant Alcibiade contre les Athéniens irrités, un discours latin qui, chaudement approuvé par M. Duruy, alors inspecteur de l'instruction publique, valut à l'élève quelques semaines de popularité scolaire. Il allait, les jours de congé, sur les boulevards, et il contemplait avidement, à travers les glaces des boutiques, les bijoux, les étoffes, les bronzes, les photographies de femmes, les mille choses dont les caprices frivoles lui semblaient les formes nécessaires du bonheur. Entré en philosophie, il eut son premier chapeau de haute forme et il fuma des cigarettes en compagnie. Son esprit avait quelque chose de brillant et de fin qui amusait ses camarades. Il leur était supérieur par l'imagination. Ses dernières vacances se passèrent d'une façon tolérable. Son père, le trouvant un peu pâle, l'envoya au village chez des parents chartreins. Jean, après les longs dîners de la ferme, allait s'asseoir sous un arbre et lisait un roman. Parfois, il allait à la ville, dans la voiture du meunier. Souvent, il recevait le long de la route la pluie qui tombait tristement à la tombée du jour. Puis il avait le plaisir de se sécher à la grande cheminée d'une auberge du faubourg, devant le tournebroche odorant. Il lui arriva même de chasser avec un fusil à pierre, en compagnie de son cousin le meunier. Enfin, il pouvait se flatter, à son retour, d'être allé à la campagne. À 18 ans, il fut reçu bachelier. Le soir de l'examen, M. Servien déboucha une bouteille cachetée qu'il gardait depuis longtemps en vue de cette solennité domestique et dont le vin, en se dépouillant, était devenu rose. Un jeune homme qui a son diplôme dans sa poche peut entrer par toutes les portes, disait M. Servien, en buvant avec respect ce vin passé qui avait été bon. Jean expédia lentement le repas de famille et courut au théâtre. Il ne connaissait encore les spectacles que par les affiches. Il choisit pour cette soirée un grand théâtre où l'on jouait une tragédie. Il prit son billet de parterre avec l'espoir confus d'entrer dans un monde de passion et de volupté. Tout est trouble aux âmes troublées. En entrant dans la salle, il fut surpris et contristé du peu de spectateurs qu'il y avait au fauteuil et dans les loges. Mais dès qu'il entendit les premiers grincements des violons qu'on accordait, il regarda fixement la toile qui se leva enfin. Alors, il vit dans un palais romain, debout, accoudé au dossier d'un siège antique, une femme qui portait sur sa robe de laine blanche la palette à couleur de safran. Elle récitait dans le fruit des pas, des étoffes et des petits bancs, un long monologue et faisait des gestes lents. Il sentit en la voyant une joie inconnue qui peu à peu devint aiguë et presque douloureuse. La succession des scènes amena sur le théâtre une confidente, puis un héros, puis des comparses. Mais il ne voyait que la première apparition. Ses regards s'attachaient avidement à elle. Il caressait les deux bras nus autour desquels jouaient les anneaux. Il glissait le long de la hanche sous la haute ceinture. Il plongeait dans les cheveux bruns, ondulés sur le front et liés au chignon par trois bandelettes blanches. Il se pressait contre cette bouche qui remuait, contre les dents humides qui, par moments, un reflet de la rampe faisant ensanceler. Et il voulait sentir, prendre, retenir cette chose belle et vivante qui lui était offerte en spectacle. Il l'enveloppait, il l'étreignait des yeux. L'entracte, car on change de décor au cours de cette tragédie, lui sembla fastidieux. Ses voisins parlaient politique, on se passait devant lui des quartiers d'orange, le marchand de journaux et le loueur de lorgnette l'assourdissaient. Il redoutait que quelque événement subi vint interrompre le spectacle. La toile se releva sur des scènes de politique cornélienne qui n'exercèrent pas pour Servien. Par bonheur, la belle figure en robe blanche reparut. Mais il la regardait trop. Il ne la voyait plus. À force de fixer son regard sur les longs pendants d'or qui tombaient des oreilles de l'actrice, il était ébloui. Ses yeux humides se fermaient et il n'entendait plus que le tintement clair de ses tempes. Par un grand effort lors de la scène finale, il la revit et l'entendit d'une manière nette et précise, et non point toutefois comme une personne naturelle, car alors elle revêtait pour lui la simplicité d'une vision surhumaine. Et quand, au signal de la sonnette, la toile se déroula pour la dernière fois, il eut la sensation d'un irréparable écroulement. On joua ensuite le Tartuffe, mais ni la verve correcte des comédiens, ni le joli visage et les épaules rondes d'Elmire, ni les beaux bras de la soubrette, ni les jeunes yeux de l'ingénu, ni les grands vers heureux qui remplissaient la salle réveillée, ne remuèrent son âme arrêtée sur les lèvres d'une tragédienne. En sortant, le premier souffle d'air frais qui lui frappa le visage dissipa son ivresse. Il se remit à sentir et à penser. Mais il ne pensait qu'à la tragédienne et ne voyait distinctement que l'image de cette femme. Cette obsession dans les rues noires lui était douce, et il fit de longs détours sur les quais pour prolonger son rêve, emportant de volupté autant et plus qu'il n'en pouvait contenir. Il était heureux parce qu'il était là. Nul désir ne s'élevait dans son âme accablée d'une fatigue délicieuse, et ses yeux seuls avaient pourvu jusqu'à l'excès aux appétits de sa nature vierge. Il tomba à demi vêtu sur son lit, avec la joie de garder une belle image dans son âme. Le seul besoin qu'il éprouva était de s'anéantir dans le sommeil enchanté qui pesait sur ses paupières d'adolescent. À son réveil, il chercha des yeux quelque chose. Il ne savait pas encore qu'il était amoureux, mais quelque chose lui manquait. Il n'eut pourtant d'autre envie que de lire les vers qu'il avait entendus réciter par l'actrice. Il prit sur son étagère un tome de Corneille et lut le rôle d'Émilie. Tous les vers l'enchantaient également parce qu'ils ranimaient tous en lui le même souvenir. Son père et sa tante avec lesquels il vivait n'avaient plus pour lui un sens et une figure bien nette. Leur plus rude familiarité ne pouvait le distraire, et les brutalités d'une vie étroite et pauvre ne troublèrent point sa fête intérieure. Tout le jour, au fond de la boutique où l'odeur de colle forte se mêlait au fumet de la soupe aux choux, il vivait dans une incomparable splendeur. Son petit livre, criblé de coups d'ongle aux couplets d'Émilie, suffisait à l'entretenir dans la plus belle des illusions. Une image et des sons, c'était pour lui le monde. En peu de jours, il sut par cœur tous les vers de la tragédie. Il les récitait d'une voix enflée et lente, et sa tante lui disait après chaque tirade, tout en épluchant des légumes, « Mais tu veux donc te faire curé que tu prêches comme à l'église ?» Mais elle approuvait en somme ses exercices, et quand M. Servien se plaignait en se grattant la tête de ce que son fils ne se décida à embrasser aucune profession, elle prenait toujours la défense du petit et fermait la bouche au relieur en lui déclarant qu'il n'entendait rien à rien. Le bonhomme retournait alors à sa peau de mouton. Mais bien qu'il ne se vit pas une idée très nette de ce qui se passait dans l'esprit de son fils, parce que celui-ci, étant devenu un monsieur, échappait à sa compétence, il s'inquiétait de ce qu'un repos, légitime d'ailleurs à la suite d'un examen heureusement subi, se prolongeât ainsi. Il était pressé de voir son fils gagner quelque argent dans une administration. On lui avait parlé de l'hôtel de ville et de ministère, et il cherchait dans sa tête s'il ne trouvait pas quelque protecteur dans sa clientèle. Mais il n'était pas homme à brusquer les choses. Un jour que Jean Servien faisait une de ces longues promenades dont il avait pris l'habitude, il lut sur l'affiche que son Émilie, Mademoiselle Gabrielle T., jouait dans le spectacle du soir. Cette fois, il mit, malgré l'opposition de sa tante, ses habits du dimanche, fit apprêter ses cheveux au fer et s'assit à l'orchestre. Il la revit. Tout d'abord, elle lui sembla moins belle qu'il ne le s'était figuré. Il avait tant travaillé, tant veillé sur la première image emportée d'elle, que cette image s'était transformée à son insu, et le type même qu'il avait formé n'y répondait plus. Puis il était déconcerté de ne revoir ni la stola blanche et le manteau couleur de safran, ni les bracelets et les bandelettes qui lui avaient semblé tenir à la chair qu'ils ornaient. Maintenant elle portait le turban de Roxane et le léger pantalon noué à la cheville. Mais il ne s'habitua que peu à peu à ce changement. Il reconnut qu'elle avait les bras un peu grêles et qu'une de ses dents était en arrière de la blanche rangée. Mais à la longue, ses défauts lui furent agréables parce qu'ils étaient en elle et il l'en aima davantage. Cette fois, par le changement qui est l'essence même de la vie et par l'imperfection qui est le caractère des êtres vivants, elle lui inspirait un intérêt sensuel et l'idée d'une chose humaine à laquelle on pouvait se prendre et se mêler. Son admiration fut alors pénétrée d'attendrissement et pleine d'une tristesse infinie. Il pleura. Le lendemain, il eut un grand désir de la voir telle qu'elle était dans la vie, en toilette de ville. C'était déjà quelque chose d'intime que de la rencontrer dans la rue. Un soir qu'elle jouait, il la guetta à la porte de l'administration par laquelle sortirent tour à tour les machinistes, les acteurs, les gardes de Paris, les pompiers, les habilleuses, les comédiennes. Puis elle, bien enveloppée dans son manteau de fourrure, un bouquet à la main, grande et si blanche dans l'ombre qu'elle lui semblait éclairée par une lumière intérieure. Elle attendit sur le seuil qu'on fît avancer une voiture. Il pressa de ses deux mains sa poitrine et craignit de mourir. Quand il fut sur le quai des airs, il arracha une feuille à une branche qui pendait d'un platane. Puis, accoudé au parapet du pont, il jeta cette feuille dans le fleuve et il la regarda couler au fil de cette eau argentée par la lune et semée de feux tremblants. Il la regarda aussi longtemps qu'il put la voir. C'était son propre emblème. Il s'abandonnait lui aussi au courant d'une passion brillante et qu'il croyait profonde. Il y avait cette année-là une exposition universelle sur le Champ de Mars. C'était sur les avenues, au soleil et dans la poussière, un long fourmillement d'hommes. Jean franchit le tourniquet du péage et entra dans le palais de fonte. Il suivait encore son amour, car il associait celle qu'il aimait à toutes les représentations de l'art et du luxe. Il prit le parc et alla droit à l'édicule égyptien. L'Égypte avait occupé ses rêves du temps qu'il ne songeait plus qu'à une femme. Dans l'allée de Sphinx et devant le temple peint, il ressentit cette impression de poésie qui se dégage des femmes anciennes et singulières et que ressentent vivement les amoureux. Le sanctuaire lui sembla vénérable malgré l'usage forain auquel il servait dans cette exhibition universelle. En voyant les bijoux de la reine Hatshepsut, qui vécut et fut belle au temps des patriarches, il songea avec mélancolie à ce qui avait été et n'était plus. Il se représenta les cheveux noirs qui avaient parfumé ce diadème de sphinx, les bras fins et bruns que ses perles d'or et de lapis avaient touchés, les épaules sur lesquelles ses ailes de vautour s'étaient posées, les seins aigus que ses chaînes, que ses gorgerins avaient pressés, la poitrine contre laquelle ce scarabée d'or aux élytres bleus tiédissait autrefois la petite main royale qui avait tenu ce poignard couvert de fleurs et de têtes de femmes. Il ne pouvait concevoir que ce qui était un songe pour lui eût été une réalité pour d'autres hommes. Il se perdait à suivre l'écoulement des choses. Il se disait qu'une autre forme vivante s'évanouirait à son heure et qu'il serait vain alors qu'elle eût été tant désirée. Cette idée l'attrista et le calma. Il pensait, devant ses bijoux funéraires, à tous ces hommes qui, dans l'abîme des temps, avaient tour à tour aimé, convoité, joui, souffert, que la mort avait pris affamé ou repu et qu'elle avait également comblé. Une tristesse tranquille l'envahit, mais il resta immobile, la tête dans ses mains. Le lendemain, pendant le déjeuner, Jean remarqua pour la première fois que son père avait l'air vénérable et bon. Le relieur, en effet, prenait avec l'âge une sorte de beauté. Son front, sous les boucles de ses cheveux blancs, s'était poli et révélait l'habitude des pensées calmes et honnêtes. L'âge, en rendant moins aisé le jeu des membres, cachait les déformations causées par le travail de l'atelier sous les déformations plus solennelles que le long travail de la vie imprime uniformément à tous les hommes. Le vieillard avait lu, réfléchi, tendu vers le milieu avec bonne volonté et reçu cette onction que la foi religieuse donne aux simples. Car il était devenu pieux et il suivait les offices de sa paroisse. Jean se dit qu'aimer ce père serait chose facile et douce, et il résolut d'entrer dans une vie de travail et de sacrifice. Mais il n'avait pas d'état et il ne savait que faire. Enfermé dans sa chambre, il eut pitié de lui-même et il voulut se redonner la paix du cœur, le calme des sens, la bonne vie qui s'en était allée avec cette feuille de platane livrée l'autre soir au fil de l'eau. Ayant ouvert un roman à la première page d'amour, il rejeta le livre, se mit à lire un récit de voyage et suivit un explorateur anglais dans le palais de roseaux du roi de l'Ouganda. Il remonta le Nil à Oulondogarni. Les hippopotames renaclaient dans l'eau, les florequins et les pintades prenaient leur vol, tandis qu'un troupeau d'antilopes fuyait dans les hautes herbes. Il fut rappelé de si loin par sa tante qui criait dans l'escalier. « Petit, petit, allez descendre dans la boutique, ton père t'appelle !» Un gros homme sanguin, voûté comme on l'est par l'habitude du bureau, était assis près du comptoir. Monsieur Servien le regardait d'un air soumis. Quand Jean parut, l'étranger demanda si c'était là le jeune homme en question. Il ajouta d'un ton bourru « Vous êtes tous les mêmes. Vous travaillez, vous suez, vous vous épuisez. » Pour faire de vos fils des bacheliers, et vous croyez que le lendemain de l'examen, ces gaillards-là seront nommés ambassadeurs. Pour Dieu, mais ne nous donnez plus de bacheliers, nous ne savons qu'en faire. Les bacheliers, ils encombrent le pavé, ils sont cochers de fiacres, ils distribuent des prospectus dans les rues. Il en meurt à l'hôpital, et il en va au bagne. Pourquoi n'avez-vous pas appris votre métier à votre fils ? Pourquoi n'avez-vous pas fait de lui un relieur ? Oh, je le sais bien, vous n'avez pas besoin de me le dire, c'est par omission. Eh bien, un jour, votre fils crèvera de faim en rougissant de vous, et ce sera bien fait. L'État, dites-vous, l'État, vous n'avez que ce mot dans la bouche. Mais il est encombré, l'État. Aux finances, on nous envoie des bacheliers qui ne savent pas l'orthographe. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions de tous ces clampins-là ? Il passa la main sur son front rouge, puis marquant d'un geste qu'il s'adressait à Jean. « Au moins, avez-vous une bonne écriture ?» Monsieur Servien répondit pour son fils qu'elle était lisible. « Lisible, lisible !» reprit le protecteur en agitant ses joues lourdes. « Une écriture d'expéditionnaire doit être régulière. Jeune homme, votre écriture est-elle régulière ?» Jean dit qu'il ne savait pas, qu'elle avait pu être gâtée, ou qu'il y avait attaché peu d'importance. L'homme fronça les sourcils. « C'est un tort, dit-il, et j'ose dire qu'il y a chez les jeunes gens une affectation puérile à ne pas écrire convenablement. Je puis avoir une certaine influence au ministère, mais il ne faut pas me demander l'impossible. » À ces mots, le relieur fit un geste timide. Il n'avait pas l'air en vérité d'un homme qui demande l'impossible. L'homme se leva. « Vous prendrez, dit-il à Jean, des leçons d'écriture et de calcul. Vous avez 8 mois devant vous. Dans 8 mois, le ministre ouvrira une session d'examen. Je vous ferai inscrire. Et mettez-vous à l'heure, et sans perdre une minute. » Ayant dit, il tira sa montre comme pour voir si, en effet, son protégé laissait passer une seule minute avant de commencer sa tâche. Il recommanda au relieur de se mettre sans retard au livre qu'il lui donnait à cartonner, et il sortit. Quand le relieur lui reconduit jusqu'à sa voiture, « Jean, mon garçon, dit-il, « Monsieur Bargemont, à qui j'ai parlé de toi et que tu viens d'entendre, t'aidera à entrer au ministère des Finances, où il occupe une grande position. Tu as compris ce qu'il t'a dit pour les examens. Tu connais, Dieu merci, ces choses-là mieux que moi. Je ne suis qu'un ignorant, mon garçon, mais je suis ton père. Écoute bien ce que je veux t'expliquer, afin que, de ce jour-ci jusqu'au jour où j'irai retrouver ta pauvre mère, nous puissions nous regarder tranquillement en face et nous comprendre d'un clin d'œil. Ta mère t'a bien aimé, Jean. Il n'y a pas de mine d'or qui puisse donner une idée de la richesse du cœur qu'avait cette femme-là. Dès qu'elle te vit venir au monde, elle vécut, autant dire, plus en toi qu'en elle. Son amour était trop fort, enfin. Elle est morte. C'est la faute de personne. » Le vieillard tourna involontairement les yeux vers l'angle le plus obscur de la boutique, et Jean, regardant du même côté, vit dans l'ombre les formes anguleuses de la presse à bras. Monsieur Servien poursuivit. « Elle me demande en mourant de faire de toi un honnête instruit, parce qu'elle savait que l'instruction est la clé qui ouvre toutes les portes. J'ai voulu ce qu'elle avait voulu. Elle n'était plus là, Jean, et quand la parole d'un mort vous remonte aux oreilles et vous dit « J'ordonne pour le bien, il faut obéir. » Je m'y suis pris comme j'ai pu, mais sans doute que Dieu était avec moi puisque j'ai réussi. Te voilà instruit, c'est bon, mais il ne faut pas que ce qui est fait pour le bien tourne pour le mal. Le mal, c'est l'oisiveté. J'ai travaillé comme une bête de somme et j'ai du matin au soir la bricole au cou, donné de fameux coups de collier. Me rappelle particulièrement un train de cartonnage pour la maison Pigoreau qui me tint debout pendant 36 heures consécutives. Et cette année-ci encore, pour payer tes examens, j'ai accepté une commande dans le genre anglais qui m'a donné une peine terrible parce que c'est pas mon genre à moi. Et qu'à mon âge, on n'est pas bon pour faire du nouveau. Il voulait une façon légère, avec un carton souple comme du papier. Ben, j'en ai pleuré, mais j'ai réussi. C'est un fameux outil, tu sais, que la main d'un ouvrier. Mais le cerveau d'un homme instruit est un outil bien plus merveilleux encore, et celui-là, tu l'as grâce à Dieu, d'abord, et à ta mère ensuite. C'est elle qui a eu l'idée de t'instruire. Je n'ai fait que suivre cette idée. Ta besogne sera plus douce que la mienne, mais il faudra que tu la fasses. Je suis pauvre, tu le sais. Mais je serai riche que je ne te donnerai pas les moyens de vivre sans rien faire, parce que ce serait te donner des vices et de la honte. Ah, si je savais que son instruction tu fais prendre le goût de la paresse, je regretterais de n'avoir pas fait de toi l'ouvrier comme moi. Mais je suis certain que tu as du cœur. T'as pas encore pris ton élan, voilà tout. Les commencements seront durs. M. Bargemont l'a bien dit. L'État est encombré, il y a trop de bacheliers, ce qui est tout de même un bien. D'ailleurs, je suis là, je t'aiderai, je travaillerai pour toi. Mes bras sont bons encore. Tu auras de l'argent de poche, car il en faut dans le monde où tu vas. Nous nous gênerons. Mais aide-moi, sois brave à l'ouvrage, cogne fort et pousse droit. On n'en est pas moins gai pour cela. Ta besogne faite, mais ris, chante, amuse-toi, mon garçon, c'est pas moi qui trouverai à redire. Et quand tu auras une belle position, si je suis encore de ce monde, ne crains rien, je ne te gênerai pas. Je fais pas de bruit, moi. Je me cacherai dans un petit trou avec ta tante et personne d'entendre parler du bonhomme. La tante qui s'était glissée dans la boutique depuis un moment éclata en sanglots. Elle voulait bien, comme son frère, se cacher dans un coin. Mais quand son neveu serait dans les grandeurs, elle irait tous les jours mettre de l'ordre chez lui. Elle ne voulait pas laisser le petit en proie aux femmes de ménage, qu'on devrait plutôt nommer les femmes de déménagement. « Ces créatures, disait-elle, ont de grands cabas dans lesquels s'engouffrent bouteilles, poulets froids et autres bons morceaux, linge fin, vieille toile, huile, sucre et bougie, bref, tout le bien des riches. Non, je ne souffrirai pas que mon petit Jean soit sucé tout vif par de pareils vampires. C'est moi qui tiendrai ton ménage. On ne saura pas que je suis sa tante. Et quand on le saurait, personne, j'aime à le croire, n'y trouverait à redire. Je vois pas pourquoi on aurait honte de moi. On pourrait mettre toute ma vie au grand jour sans que j'aie à rougir. Et il y a bien des duchesses qui pourraient pas en dire autant. Quant à abandonner l'enfant de peur de lui faire du tort, oh, c'est une idée qui ne m'étonne pas de toi, Servien, parce que t'as toujours été un peu simple. Moi, je resterai toute ma vie avec Jean. N'est-ce pas, mon petit, que tu ne reverras jamais ta vieille tante? Et qu'est-ce qui te ferait faire ton lit comme moi, mon loup? Jean promit sincèrement, oh bien sincèrement, à son père une vie laborieuse. Puis il s'enferma dans sa chambre et il se représenta d'avance une suite de jours austères et réguliers. Il arrangea sa vie pour le travail. Le matin, il copiait sur un coin de l'établi des modèles d'écriture. Après le déjeuner, il faisait de l'arithmétique dans sa chambre. Le soir, il traversait le jardin du Luxembourg pour aller rue Soufflot chez un vieux répétiteur qui lui faisait des dictées et lui posait des règles d'intérêt simples. Quand il avait atteint la grille qui touche à la fontaine Médicis, il tournait la tête pour voir les statues de femmes qui lui apparaissaient sur la terrasse comme de blancs fantômes sous les arbres. Il avait laissé, dans le chemin de la vie, une autre ombre charmante. Il ne lisait jamais une affiche de théâtre, et il oubliait ses poètes préférés, de peur de souffrir. Cette vie en coulant lui parut douce dans sa monotonie, et il y trouvait un goût salubre. Un soir, comme il descendait l'escalier du vieux répétiteur, un gros homme lui présenta avec un geste arrondi la carte d'un traiteur du voisinage dont il tenait un millier sous son bras gauche, puis s'arrêtant tout à coup, s'écria « Perbacco, je reconnais mon élève, droite et souple comme un jeune arbre, mais voici M. Jean Servien !» C'était le marquis Tudesco qui parlait ainsi. Il n'avait plus son gilet rouge. Il portait à la place une sorte de camisole en toile à matelas, mais sur son lumineux visage aux petits yeux ronds et au nez aquilin, il gardait une gaieté malicieuse de vieux perroquet. Jean, surpris et content après tout de le revoir, lui demanda affectueusement ce qu'il devenait. « Eh, vous le voyez, répondit le marquis, je distribue au passant la carte de l'empoisonneur du quartier. » Et par là, je mérite de le point manqué de la vénéneuse cuisine à la gloire de laquelle je travaille. Camoens, tendit la main dans les rues de Lisbonne. Tudesco, tend les siennes sur le pavé de la moderne Babylone. Mais c'est pour donner et non pour recevoir. Déjeuner à 1,25 €, dîner à 1,75 €. Et il tendait un de ses papiers à un homme qui passa les mains dans les poches sans le prendre. Alors le marquis Tudesco s'écria en soupirant, « Et pourtant, j'ai traduit la Jérusalem Liberata, le chef-d'œuvre de l'immortel Torquato Tasso. Mais les grossiers libraires méprisent ce fruit de mes veilles, et du haut des cieux, l'abus se voile la face pour n'être pas témoin de l'injure faite à son nourrisson. » « Et qu'êtes-vous devenu depuis le temps qu'on ne vous a vu ?» demanda le jeune homme avec candeur. « Bon Dieu seul le sait, et encore je crois qu'il l'a oublié. » Telle fut la réponse du marquis Tudesco. Il noua son millier de prospectus dans une toilette et, prenant le bras de son élève, le poussa vers la rue Saint-Jacques. « Jeune ami, dit-il, voyez que le dôme du Panthéon est à moitié caché par le brouillard. L'école de Salerne n'enseigne que l'humidité du soir est funeste à l'estomac. Il y a près d'ici un honnête établissement où nous pourrons causer comme deux philosophes, et je devine que votre secret désir est d'y conduire le vieux maître qui vous a initié au mystère du rudiment latin. » Ils entrèrent dans une boutique parfumée d'une odeur de kirsch et d'absinthe qui prit servir au cœur. La salle était étroite et longue, et contre les murs, des tonneaux vernis à robinets de cuivre formaient une double rangée dont la perspective se perdait dans un lointain rendu plus profond par la fumée de tabac qui traînait dans l'air sous les becs de gaz. Assis devant les petites tables de bois peint, des buveurs vêtus de noir avec de longs chapeaux de soie cassés et lustrés par la pluie, fumaient silencieusement. À la gueule du poêle, quelques jambes maigres s'allongeaient et un filet de vapeur montait de la pointe des bottes. Une impression de torpeur pesait sur toutes ces figures blêmes. Tandis que M. Tudesco distribuait des poignées de main de vieilles connaissances, Jean, saisi d'une grande tristesse, entendait des lambeaux de conversation. C'étaient des plaintes de pions sur la cuisine des marchands de soupe, des grognements paisibles d'ivrognes enchantés de leur propre sagesse, des projets de fortune, des discussions politiques, des propos sales sur l'amour et les femmes, et aussi cette phrase « L'harmonie des sphères remplit les espaces infinis, et si nous ne l'entendons pas, c'est comme dit Platon, parce que nous avons les oreilles bouchées avec de la terre. » Monsieur Tudesco mangea des cerises à l'eau-de-vie avec une grande élégance. Puis le garçon servit du Danzig dans deux petites coupes de verre. Jean admira cette liqueur blanche semée de paillettes d'or, et M. Tudesco redemanda deux Danzig. Puis, soulevant sa coupe, « À la santé de M. Servien, votre vénérable père, dit-il. Il est vert et florissant, et moi je le souhaite. C'est un homme supérieur à sa condition mécanique et mercantile par son caractère bienveillant pour les savants nécessiteux. Et madame, votre tante, elle tricote encore des bas avec le même zèle, du moins je le souhaite. C'est une dame austère. Je devine que vous voulez commander encore la Danzig, mon jeune ami. » Jean regarda autour de lui. Le débit de liqueur était transfiguré. Les tonneaux lui semblaient énormes avec leur robinet qui étincelait, et il les voyait prolongés indéfiniment dans une atmosphère vibrante et dorée. Mais ce qui grandissait le plus à ses yeux, c'était le marquis Tudesco. Le vieillard lui apparaissait véritablement comme un géant légendaire, et il attendait de lui des prodiges. Tudesco sourit. « Vous ne buvez pas, mon jeune ami. Le vin que vous êtes amoureux. Ah, l'amour, c'est à la fois ce qu'il y a de plus doux et de plus amer au monde. Moi aussi, j'ai senti mon cœur palpiter pour une femme. Mais j'ai passé depuis de longues années le temps d'aimer. Je suis maintenant un vieil homme opprimé par l'adverse fortune. Mais en un temps plus loin, il y avait à l'homme une diva d'une beauté si magnifique et d'un génie si touchant que des cardinaux s'égorgeaient à la porte de sa loge. Eh bien, cette sublime créature, je l'ai pressée contre ma poitrine et l'on m'a rapporté depuis qu'à son dernier soupir, elle a murmuré mon nom. Je suis comme un vieux temple en ruine, déshonoré par l'injure du temps et des hommes. Mais à jamais sacrifié par la déesse. » Ce récit, soit qu'il rappelât emphatiquement quelque banale aventure de la jeunesse de l'Italien, soit plutôt qu'il fût imaginé d'après des lectures romanesques, fut accepté par le jeune Servien comme une vérité frappante. L'effet en fut foudroyant. Il vit aussitôt, avec la netteté de la plus miraculeuse apparition, au milieu des buveurs, la tragédienne qu'il aimait, les cheveux noués à l'antique, ses longs pendants d'or lui tombant de chaque oreille, les bras nus, toutes blanches avec des lèvres rouges. Et il s'écria, « Mais moi aussi j'aime une actrice !» Il buvait, sans savoir quoi, mais il sentait couler dans sa gorge un filtre qui ranimait son amour. Alors les paroles lui montèrent aux lèvres à flots pressés. La représentation de Cinna, celle de Bajazet, la mâle beauté d'Émilie, la férocité délicieuse de Roxane, la tragédienne rencontrée en manteau de velours avec un visage si clair dans les ombres de la nuit, les rêves, les désirs, l'impossibilité d'oublier, il raconta tout avec des cris et des larmes. Monsieur Tudesco tendait l'oreille en lapant goutte à goutte un verre de chartreuse et en prenant du tabac dans un cornet de papier. Parfois, il approuvait de la tête et il écoutait avec l'air de quelqu'un qui guette. Quand il jugea qu'après de longs retours et des recommencements sans nombre, les confidences étaient épuisées, il prit un air grave, posa sa belle main de prélat sur l'épaule de Servien et dit « Ah, mon jeune ami, si je croyais que la chose que vous ressentez fût le véritable amour, je ne le crois pas. » Et il secoua la tête et laissa retomber sa main. Jean protesta, mais tant souffrir, n'était-ce pas aimé? Monsieur Tudesco reprit. Si je croyais que cette chose fût le véritable amour, mais je ne crois pas encore. Jean répondit avec une grande violence, il parla de mort et de couteau planté dans le cœur. Monsieur Tudesco répéta pour la troisième fois, « Je ne crois pas que ce soit le véritable amour. » Alors Jean devint furieux, et il se mit à froisser et à arracher son gilet, comme pour montrer son cœur à nu. Monsieur Tudesco lui prit les mains et lui dit doucement, « Eh bien, mon jeune ami, puisque vous ressentez le véritable amour, je vous aiderai. Je suis un grand tacticien. » Et si le roi Carlo Alberto avait eu un mémoire militaire que je lui envoyais, il aurait gagné la bataille de Navarre. Il ne l'eut pas, mon mémoire, et la bataille fut perdue, mais ce fut une défaite glorieuse. Oh, combien fortunés les fils de l'Italie qui moururent pour leur mère dans cette sainte bataille. Les hymnes des poètes et les larmes des femmes leur firent des funérailles dignes d'envie. Je dis, quelle belle et héroïque chose la jeunesse! Quelle divine flamme s'échappe des jeunes poitrines pour remonter vers le Créateur! J'admire surtout les jeunes gens qui se précipitent dans les aventures de la guerre et du sentiment avec l'impétuosité naturelle de leur âge. Le Tasse, Novare et la Diva, tant aimés des cardinaux, se mêlait dans la tête et chauffait le Lanservien, qui, avec un sentiment sublime et confus, serra la main du vieux misérable. Il ne voyait plus rien distinctement, il croyait nager dans une atmosphère de métal fondu. Monsieur Tudesco, qui buvait en ce moment-là un verre de cumel, montra son gilet de toile à matelas. Le malheur, dit-il, est que je suis vêtu à la manière d'un philosophe. Comment montrer dans un tel costume chez les femmes élégantes? C'est dommage, car il me serait facile de me présenter chez une actrice d'un grand théâtre. J'ai traduit la Jérusalem délivrée, ce chef-d'œuvre de Torquato Tasso. Je pourrais proposer à la tragédienne que vous aimez et qui est digne de votre amour, ou du moins je le souhaite, une adaptation française de la Mirra du fameux Alfieri. Quelle éloquence, quel feu dans cette tragédie! Le rôle de Mirra est sublime et terrible. Elle voudra le jouer. Pendant ce temps, vous traduisez Mirra en vers français. Puis-je vous introduire avec votre manuscrit dans le sanctuaire de Belpomène? Vous y apportez la gloire et l'amour. Quel rêve heureux, jeune homme! Mais hélas, ce n'est qu'un rêve, car je ne puis pas pénétrer dans un boudoir sous cette enveloppe grossière et sordide. Cependant, on fermait le débit. Il fallait sortir. Jean se sentit si étourdi au grand air qu'il ne sut pas comment il avait perdu M. Tudesco après lui avoir vidé son porte-monnaie dans la main. Il erra toute la nuit par la pluie. Il courait dans les flaques d'eau qui lui éclaboussaient le visage. Les projets les plus fous s'élevaient, s'entrechoquaient et s'écroulaient dans sa tête retentissante. Parfois, il s'arrêtait pour essuyer la sueur de son front, puis reprenait sa course. La fatigue le calma. Il eut alors une idée nette. Il alla droit à la maison où demeurait l'actrice et contempla de la rue ses fenêtres closes et noires. Puis, s'approchant de la porte cochère, il la baisa.